Vous écoutez France Culture.
À demain.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, c'est notre dernier rendez-vous de la semaine et de la saison. Émission préparée par Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Mina Fézy, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Bruno Gagnère Fontanille. Être un autre, se prendre pour un autre, c'est l'un des jeux préférés de l'enfance et c'est aussi l'expérience que propose France Culture à ses auditeurs demain. La grille habituelle de programmes soumise à un grand chamboule-tout qui verra par exemple Marc Voinchet devenir Laura Adler ou encore Adèle Van Rett se couler dans la peau de Brice Couturier. Là, la journée promet d'être riche en surprises, voire en expérimentations, car si le jeu de rôle amuse, il peut notamment contribuer à lever des blocages quand il est pratiqué dans le cadre de la psychothérapie. Mais le changement de place soulève au moins autant d'inquiétudes et d'inconfort qu'il séduit. Si je joue à remplacer mon confrère, mon supérieur, mon voisin, ma femme, un vertige me saisit. Mais alors, suis-je donc remplaçable? Et si je signais du même coup l'effacement de ma singularité? Alors pour cette dernière émission de la saison, cette question nous a semblé pouvoir rassembler trois des grandes thématiques qui nous ont occupés tout au long de l'année, la famille, le travail et le corps. Les violentes polémiques nées de la loi autorisant le mariage pour tous, comme celle plus récente autour des ABCD de l'égalité, ont montré à quel point la question des places et des rôles au sein de la famille et du couple était sensible. Dans nos vies au travail, combien de salariés, qu'ils soient cadres ou ouvriers, témoignent d'une dépersonnalisation des responsabilités? Le recours à l'intérim, l'enchaînement de contrats courts, le travail en open space, les salariés sont de plus en plus nombreux à être soumis à un régime de polyvalence et de flexibilité qui leur donne souvent le sentiment de n'être qu'un pion interchangeable. Dès lors, notre propre corps est-il le dernier refuge d'une identité que l'on voudrait stable? Pas davantage, car la médecine est désormais en mesure de nous faire fonctionner grâce à des organes artificiels. Alors, sommes-nous tous interchangeables? C'est notre sujet du jour. Sommes-nous tous interchangeables? Je pourrais presque déjà répondre oui, puisque nous avons tenté une mini-expérience pour la dernière aujourd'hui. Je remercie particulièrement Céline Leclerc qui a écrit cet excellent texte introductif. Pour une fois, je peux le dire, parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Alors, je vais présenter à présent mes trois invités du soir. Jean-Michel Beignet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris-Sorbonne. Vous avez notamment publié, mais je cite ces deux ouvrages parce que ce sont deux ouvrages dont on aura l'occasion de reparler, en tout cas qui sont au cœur de la discussion de ce soir. Demain, les post-humains, le futur a-t-il encore besoin de nous? Et puis l'homme simplifié, le syndrome de la touche étoile, c'était en 2012. Deux ouvrages publiés chez Fayard. Pour discuter avec vous ce soir, Sabine Procoris, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychanalyste. Dans vos ouvrages, vous interrogez notamment la notion de différence des sexes. Je vais citer non pas un précédent, mais celui qui arrive très vite, début septembre, et qui sera publié au PUF. L'insaisissable histoire de la psychanalyse. Notre troisième invité, Serge Pogam, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, directeur d'études à l'EHESS, vous êtes responsable de l'équipe de recherche sur les inégalités sociales au CNRS, vous dirigez la collection Le lien social au PUF et vous avez publié en février dernier au PUF, toujours, l'intégration inégale, force, faiblesse et rupture des liens sociaux. Alors, je vous propose, pour commencer l'émission, de réfléchir brièvement, pendant quelques instants, à cette notion d'interchangeabilité. Est-ce que, pour vous, Jean-Michel Beignet, c'est une notion qui est plutôt connotée positivement ou négativement?
Oh ben là, je ne vais pas être très, très original en disant qu'elle est connotée, je crois, négativement. D'ailleurs, vous l'avez vous-même mentionné dans votre texte introductif en l'accompagnant de l'expression pion interchangeable. L'interchangeabilité, c'est finalement la conviction que tout se vaut, ou à la limite tout est susceptible de se valoir. C'est forcément le constat de quelque chose de dérisoire. Et sur le plan psychologique, c'est vrai que se dire qu'on est interchangeable dans la fonction qui est la nôtre, c'est un, c'est un motif de mésestime de soi. Hein. Je pense que qui part en retraite aujourd'hui et découvre qu'il est déjà remplacé, conçoit quelque chose comme un dépit. Donc je crois que l'interchangeabilité, oui, elle est connotée négativement. Alors même que nous devrions peut-être nous réjouir qu'elle existe, cette notion.
Alors on va voir justement s'il y a des motifs de s'en réjouir, Sabine Procoris, puisque Jean-Michel Beignet parlait de mésestime de soi. Je suis forcément tout de suite tenté de me tourner vers la psychanalyste.
Oui, enfin bon, en ce qui concerne la notion elle-même, je crois qu'on ne peut pas en parler de façon abstraite et générale, ça dépend sur quel plan on se situe. Là, demain, votre expérience, l'interchangeabilité est un jeu, et elle est entre collègues. Vous n'allez pas remplacer votre dentiste auprès de ses clients, ce serait catastrophique. Donc, quand il s'agit de certaines compétences, effectivement, d'abord, on peut apprendre, mais on n'est pas interchangeable, a priori, n'importe comment, dans ce domaine. En tant qu'être humain, bien sûr que non, chaque singularité est unique et en même temps tous les êtres humains, comme dit Sartre, qui parle de cet homme, qui compte. Quelle est la phrase exacte de Sartre ?
Alors vous l'avez noté manifestement, mais oui, je ne sais pas laquelle.
En tout cas, il dit que c'est un homme qui contient tous les hommes, un seul homme fait de tous les hommes, qui les contient tous. Et que vaut n'importe qui. C'est-à-dire qu'en tant que valeur humaine, chaque singularité vaut la singularité voisine. Finalement.
Peut-être que ça dépend aussi du point de vue
exactement.
D'où l'on se place. Alors restons un instant encore sur cette expérience, cette expérimentation qui sera menée demain sur France Culture. Serge Pogam, si on se place du point de vue de la collectivité, c'est-à-dire de la société, France Culture étant une micro-société, on peut peut-être y voir une forme de démonstration à la fois de force et de solidarité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu rassurant, de se dire si quelqu'un est défaillant, il y aura ses collègues qui sont là pour le remplacer. Mais c'est vrai que si on se place du côté plus individuel, il peut y avoir un sentiment de vulnérabilité. Donc est-ce qu'on pourrait dire, si je suis cette logique-là, mais je ne sais pas si ce sera la vôtre, que l'interchangeabilité, elle est plutôt positive du point de vue collectif et plutôt négative du point de vue individuel ?
En fait, dans la sociologie, on interprète le monde du travail sous l'angle de la complémentarité. C'est le fait d'être complémentaire, c'est-à-dire d'être dans des relations d'interdépendance qui procurent à l'individu le sentiment d'être utile. Il est utile parce que justement, il trouve sa place dans des collectifs qui sont nécessaires au fonctionnement de l'ensemble du système social. Alors, je crois que l'interchangeabilité est connotée aussi négativement parce qu'elle renvoie à l'idée que des individus peuvent avoir moins de valeur que d'autres. Et donc, il y a en quelque sorte dans le monde du travail une course, une surenchère à la valorisation individuelle.
Et moins de valeur que d'autres ou la même valeur que d'autres ?
Certains ont moins de valeur que d'autres et sont reconnus comme tels parce que dans un climat où on essaye de se valoriser par ses qualifications, par son aptitude et ses capacités à atteindre des objectifs qui sont d'ailleurs le plus souvent formulés en termes individuels, il y a toujours le risque d'être mal évalué, d'être rabaissé et donc de penser finalement on va me licencier ou on va me rabaisser et donc je n'ai pas beaucoup de valeur et je suis tout à fait remplaçable. C'est ça l'idée que beaucoup de salariés éprouvent vraiment aujourd'hui.
Jean-Michel Beignet, vous disiez tout à l'heure, il y a peut-être aussi des raisons de se réjouir, en tout cas d'être content que cette interchangeabilité existe. Alors, ça pourrait être justement ce que j'essayais d'esquisser d'un point de vue collectif. C'est-à-dire une société pour survivre a aussi besoin... je faisais peut-être une analogie, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais avec la société des fourmis dans une fourmilière, on met très souvent ça en avant, c'est-à-dire quelle société formidable où le collectif prime sur l'individu, ça c'est quelque chose...
Oui, ce que les sociologues appellent une société holistique, qui a comme point de repère la totalité. Non, mais je voulais dire simplement, notre tradition intellectuelle veut qu'on décrive souvent l'histoire de nos sociétés comme ayant connu une cassure au moment de la Révolution française, entre une société de rang, de caste, une société où chacun avait sa place, et considérer que cette place, elle était de nature, hein, qu'elle était acquise d'emblée. Hein, et on est passé de cette société d'ancien régime à la société démocratique, où ce qui a prévalu, c'est l'égalité des conditions, hein, et l'idée que chacun occupe une place qui pourrait être une autre. Hein, et chacun pouvait espérer à ce moment-là occuper la place qu'il souhaitait, hein, et éventuellement abandonner celle qu'il avait.
Donc l'interchangeabilité serait constitutive de la démocratie ?
Absolument, absolument. La mobilité des places, la mobilité des conditions est le béaba de la démocratie. Donc on pourrait se dire, oui, par bonheur, l'interchangeabilité règne dans une société comme la nôtre qui est démocratique. Mais vous-même, vous dites que l'autre référence qui pointe à l'horizon de cette conception démocratique, c'est la société des insectes sociaux, hein, où à ce moment-là, effectivement, l'interchangeabilité devient radicale, au point que les individus en perdent le sentiment de leur intériorité, et ils sont des êtres que j'ai qualifiés pour ma part simplifiés, c'est-à-dire réduits vraiment à l'élémentaire de fonctions, hein, qui sont effectivement utiles à la totalité, hein, mais qui sont dégradantes et qui ont perdu toute dimension symbolique. On y reviendra peut-être tout à l'heure.
Sabine Procoris.
Mais justement, je vais rebondir sur ce que vous évoquez quand vous parlez d'intériorité, juste en tant que, disons, à partir de mon expérience. Hein. Je pense déjà, moi, j'aimerais faire une distinction entre individu, individualité et singularité. Parce que je ne crois pas que la singularité de quiconque se réduise au périmètre de l'individualité comme à une somme de qualités, de compétences, de je ne sais pas trop quoi, qui serait close et figée et établie une fois pour toutes. Je pense qu'au contraire, la singularité englobe de manière ouverte hein, l'ensemble de nos liens passés, présents et à venir. Et que donc, c'est quelque chose qui est en modification permanente, de manière à chaque fois unique et incomparable. Néanmoins, c'est parce qu'il y a cet en commun entre tous les hommes qu'il peut y avoir des singularités, de même que deux gouttes d'eau. La singularité, elle est liée au fait qu'on n'occupe pas le même espace dans le temps, dans l'histoire, etc. Du coup, je crois que plutôt que de parler d'interchangeabilité, moi, il m'intéresserait plus de parler, je n'ai pas envie de dévier votre sujet,
mais de circulation.
Je pense qu'on peut circuler d'une place à l'autre. Et pour prendre un exemple tout simple, par exemple, un rôle théâtral, Hamlet, mettons. Il peut être joué par des tas d'acteurs. Mais à chaque fois qu'un acteur le jouera, le rôle se transformera. Hamlet, ce n'est pas Hamlet comme une chose qui existe en soi, c'est quelque chose qui est lu, réinterprété, réinvesti, mais en même temps, réciproquement, l'acteur sera modifié par cette expérience d'avoir joué Hamlet. Donc je crois que c'est une sorte de circulation mutuelle permanente, ouverte, qui fait que non, on n'est évidemment pas interchangeable, mais on peut circuler. Et dans la famille, c'est important de penser à ça.
Serge Pogam, dans le monde du travail, est-ce que cette circulation-là, elle est envisagée aussi dans le respect de la singularité, ou est-ce qu'aujourd'hui, on a par exemple des méthodes de management où l'idée, c'est d'aller vraiment vers cette interchangeabilité en faisant aussi une méthode peut-être de pression sur les salariés hein, en disant en gros voilà on vous envoie un message ça ne vous convient plus ce que vous faites et ben on trouvera facilement quelqu'un d'autre qui fera exactement la même chose.
Oui, en réalité, quand on reconstitue des séries statistiques à partir d'enquêtes réalisées au cours des 30 dernières années, on voit une chose très, très nette, c'est que l'autonomie des salariés a augmenté, quel que soit le sexe, c'est vrai pour les hommes et pour les femmes, quelle que soit aussi la catégorie socio-professionnelle. Alors ça veut dire quoi l'autonomie? Ça veut dire la capacité à résoudre soi-même dans le travail des tâches un peu complexes sans avoir à demander à son supérieur. Et donc on attend dans les nouveaux modes de management que l'individu se prennent en charge, c'est-à-dire arrivent à réaliser des objectifs qui sont d'ailleurs aussi, je l'ai dit tout à l'heure, de plus en plus individualisés. Si bien que il y a inévitablement dans ce nouveau mode de fonctionnement du travail en général un certain essoufflement des collectifs, c'est-à-dire que l'individu se retrouve finalement seul à rechercher effectivement quelle est ma singularité, qu'est-ce que je peux apporter en plus, d'autant que les fonctions sont de plus en plus polyvalentes. Et donc dans cette polyvalence presque imposée, je dois me singulariser, je dois me distinguer des uns et des autres pour justement apparaître comme irremplaçable. Parce que c'est ça l'objectif, finalement, au fond.
C'est davantage cet objectif-là, apparaître comme irremplaçable, plutôt que d'apparaître comme pouvant faire toute autre chose, c'est-à-dire être absolument flexible et...
Oui, mais je suis d'autant plus irremplaçable que je suis flexible. C'est ça la question. Je suis capable de faire plein de choses. Et donc, on a besoin de moi parce que je suis essentiel. Donc, c'est bien ça l'état d'esprit dans lequel se retrouvent de nombreux salariés aujourd'hui dans le monde du travail. Alors, par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, l'horizon démocratique d'une société comme la nôtre, c'est effectivement l'horizon de l'égalité et donc de l'interchangeabilité. Je suis d'accord avec ça, mais c'est des registres différents. Dans le monde du travail, on est dans une logique de complémentarité, d'interdépendance, de différenciation des fonctions et des individus, alors que pour faire fonctionner une société comme un tout, il faut aussi avoir un horizon d'égalité. Et c'est pour ça qu'on peut effectivement se référer tantôt à cet horizon d'égalité, parce que ça nous soulage, ça soulage effectivement l'individu d'être intégré par cette aspiration démocratique qui est la nôtre, et en même temps, il y a cette lutte de tous contre tous dans le monde du travail, et ça, on n'y échappe pas quand même.
Encore un mot, Serge Pogam, il y a quelques semaines de cela, on avait consacré une émission aux questions d'évaluation. Évaluation, alors, notamment à l'école, la question des notes est absolument d'actualité à nouveau aujourd'hui, et puis à évaluation dans le travail, il y avait une de nos chercheuses invitées qui nous expliquait que l'évaluation, c'était finalement quelque chose qui était très bien admis par les salariés, parce qu'ils étaient le plus souvent persuadés que cette évaluation, elle se ferait à leur profit et au détriment de leurs collègues, dont on allait découvrir qu'ils travaillaient beaucoup moins bien qu'eux. Est-ce que par rapport à l'interchangeabilité, on est aussi dans le même contexte, c'est-à-dire que les salariés acceptent ça parce qu'ils se disent que ça ne peut que leur profiter et ne pas voir l'effet pervers qui pourrait...
Oui, je pense que quand effectivement les salariés ont suffisamment d'assurance pour pouvoir se lancer dans cet horizon de course à la singularisation et à la performance, oui, mais il faut bien reconnaître que le monde du travail que l'on a quitté, c'est celui de la société industrielle où les individus étaient reconnus par une qualification à l'intérieur de collectifs. Et donc, ils pouvaient faire valoir leur statut et leur qualification en ayant le sentiment que dans un horizon de qualification, ils étaient effectivement tout à fait valorisés en tant que tels. Pensez à des sidérurgistes, par exemple, je prends cet exemple, qui effectuaient un travail extrêmement difficile, nécessitant une qualification extrêmement précise. Ils avaient le sentiment d'être intégrés professionnellement parce que portés par des collectifs où ils se reconnaissaient à travers cette identité de métier et cette capacité à réaliser des tâches difficiles au quotidien.
Quand on parle d'interchangeabilité, la notion de valorisation, elle est évidemment essentielle, Jean-Michel Beignet.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de dire en disant qu'au fond, bon, nous sommes peut-être des sociétés qui avons perdu le sens du métier au profit de l'emploi.
Oui.
On parle d'emploi, les jeunes, les étudiants cherchent un emploi, ils ne cherchent plus un métier. Le métier, dessinait précisément une qualification irremplaçable.
Et une assurance.
Et une assurance de reconnaissance.
Bien sûr.
Bien entendu. Et c'est ça peut-être qu'on a perdu. Et pour aussi évoquer ce que vous disiez, il me saute aux oreilles que l'individu, c'est d'abord et avant tout le spécimen représentant d'une espèce. C'est ça, basiquement, la notion d'individu. Donc elle est désubstantialisée. L'individu est désubstantialisé. Alors que le singulier, vous savez comment on dit en grec le singulier ?
Idiotisme.
C'est l'idiot. L'idiot. L'idiotesse. C'est assez intéressant.
L'idiosyncrasie.
Oui, donc, une société d'êtres singuliers serait une société d'idiots. Et l'idiot, de fait, il n'est pas interchangeable. Il est la singularité même, c'est le mouton à cinq pattes, etc.
Sabine Procoris.
Mais je ne crois pas du tout qu'on puisse opposer, c'est très abstrait pour moi, le singulier et le en commun. Je préfère dire le en commun que le collectif, parce que le singulier, il est fait de tous nos liens aussi. Mmh. Et évidemment, il se configure comme les roses des sables, si vous voulez, de manière différente à chaque fois. Et puis vous avez dit quelque chose que j'ai trouvé très important concernant la différence entre le métier et l'emploi, c'est tout à fait juste, je crois. Simplement, un métier, ça peut se transmettre. Et cette dimension de transmission suppose qu'on considère qu'on est remplaçable, mais qu'on a transmis une expérience qui va être reprise autrement par ceux qui viennent après.
Alors prenons peut-être un autre exemple, on a pris celui du monde du travail, mais qui pose aussi la question de l'interchangeabilité, même si, comme vous le disiez, Sabine Procoris, vous préférez parler de circulation, mais celui de la famille. Alors il y a eu plusieurs choses, le mariage pour tous, débat extrêmement vif, les ABCD de l'égalité, bon c'est pas exactement la famille, mais enfin, en tout cas c'est la répartition des rôles dans la société, y compris dans la famille. D'abord, comment est-ce que vous expliquez que ce soit des débats qui soient à ce point violents? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une force qui résiste à cette interchangeabilité?
Bien sûr qu'il y a des forces qui résistent. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'interchangeabilité. Je crois que c'est une vaste question, évidemment. Mais déjà, ça me dérange de parler de la famille comme si c'était une espèce de réalité hors histoire, hors temps, dans laquelle chaque... Enfin, voilà. Il y a des familles, il y a les familles.
Mais ce qu'on a beaucoup entendu dire, notamment par rapport au mariage pour tous, c'était de dire on ne peut pas avoir des rôles interchangeables, c'est-à-dire le rôle d'une mère, c'est le rôle d'une mère, le rôle d'un père, c'est le rôle d'un père, et on ne peut pas mélanger.
Je sais bien, ça supposerait qu'on sache ce que c'est le rôle d'un père et le rôle d'une mère. Et malheureusement, beaucoup de mes confrères pensent savoir ce que c'est. Alors, quand on regarde un peu le discours des gens de la Manif pour tous ou du Printemps français et certains développements dans une certaine théorie un peu dogmatique chez les psychanalystes, et puis la vulgate psy qui est juste la théorie dogmatique, c'est de la vulgate en habit du dimanche, c'est pas mieux que ça, en fait. Mais de quoi on se rend compte quand on regarde ça d'un peu plus près? C'est que ce sont un ensemble de clichés qui remontent à la nuit des temps, mais qui ont été juste rigidifiés en système. J'ai lu un livre, là, récemment, vraiment très intéressant, d'une sociologue, Francine Muel-Dreyfus, qui s'appelle Vichy et l'éternel féminin, et elle montre bien comment les idéologues de Vichy fabriquent une certaine représentation de la mère, d'abord de la mère, du maternel. Une femme n'a une santé normale, d'après les médecins idéologues de Vichy, qu'après 4 grossesses. Bon. Je vous passe la fête des mères, c'est bien connu, mais tout ça pour organiser quelque chose autour du culte du chef. Donc on voit bien que l'enjeu sous-jacent, c'est quelque chose qui a trait, et Virginia Woolf l'a très bien montré par exemple dans Trois Guinées, à une certaine organisation du pouvoir. Après, ce que c'est qu'un père, ce que c'est qu'une mère, moi je crois, la famille, c'est tout simplement le fait qu'il y ait de la famille. C'est que y a des enfants qui naissent et qu'aucun être humain ne peut s'élever tout seul.
Mais est-ce qu'il y a au sein de la famille des rôles interchangeables?
Alors, Alors, qu'est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'une mère? Je crois que chaque personne qui devient père ou mère, que ce soit un couple hétérosexuel ou homosexué, se demande ce que c'est. Sauf s'il pense déjà savoir ce que c'est mal parti. C'est-à-dire, chaque fois, c'est une question. Et alors, évidemment, c'est habité par toutes sortes de choses qui sont héritées, mais qui sont, comme je vous disais tout à l'heure sur le rôle d'Hamlet, réinvesties. Je voudrais juste vous citer une phrase de Ginsburg, de l'historien Ginsburg, qui dit que comme la langue, la culture offre à l'individu un horizon de possibilités latentes, une cage flexible et invisible dans laquelle exercer sa propre liberté conditionnelle, dit-il. Je crois que la famille, c'est de cet ordre. C'est une cage flexible et invisible qui est à chaque fois réinvestie, réinventée, et que il peut y avoir des femmes dans lesquelles il y a ce qu'on appelle du paternel, des hommes où il y a ce qu'on appelle du maternel. Après, la manière d'habiter ces places, je préfère parler de place que de rôle, elle dépend de la manière dont, dans un couple... Et puis parfois, il y a aussi des parents célibataires. Les choses se combinent, se bricolent à partir du moment où il y a un enfant qui vient au monde et où il faut l'amener parce que vers le monde. C'est ça. C'est-à-dire, pour tout être humain qui vient au monde, le rapport au monde passe par d'autres êtres humains, avec tout ce dont ils sont habités et donc tout ce qui tourne dans la tête, dans nos expériences, concernant ce que c'est le père, ce que c'est la mère. Mais c'est éminemment... il y a un fond commun, si vous voulez, mais ça bouge.
Serge Pogam, je vous voyais acquiescer à plusieurs reprises.
Oui, d'ailleurs, parce que je m'étonne un peu, parce que je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je m'attendais un peu à un autre discours, parce que souvent les psychanalystes, justement, sont assez sensibles à la distinction entre les rôles masculins et les rôles féminins. Et donc là, vous suivez finalement la perspective sociologique qui est celle du constat qu'il s'agit bien de rôles construits, socialement construits, historiquement construits. Et donc, je voudrais, pour ma part, insister sur le malaise que la société française a traversé ces derniers mois autour du mariage pour tous. Je pense qu'il y a quelque chose que l'on peut interpréter comme une incertitude quant au modèle de société dans lequel on vit. Et je pense que les Français, comme d'ailleurs c'est beaucoup les Européens d'une façon générale, ces dernières années n'ont plus de confiance dans les institutions. Notamment plus de confiance dans ceux qui nous gouvernent, que ce soit le gouvernement, le Parlement, les grandes institutions de notre pays sont en quelque sorte affaiblies. Cette défiance dans les institutions, elle est source véritablement, elle exprime une inquiétude et un malaise social profond. Et si bien que moi, j'interprète la question de la famille comme ce qui touche au moins à des repères qui sont censés être traditionnels. Ça, au moins, ça ne peut pas bouger parce qu'on doit faire confiance à la famille parce que c'est ce qui nous relie finalement peut-être le plus à la société à travers ce lien de filiation, ce lien conjugal également. Et je considère effectivement comme ce qui vient d'être dit que les rôles masculins et féminins sont véritablement socialement construits. Et en même temps, je sens que dans le débat, il y a des perturbations parce que justement, on sort finalement d'une certaine forme de représentation traditionnelle de la société et cela crée du malaise.
Alors si le milieu du travail ne permet plus de répondre à ces incertitudes, si le cercle familial est bousculé au point là aussi justement de créer un certain nombre de remous, vers quoi faut-il se replier? On n'a pas encore parlé du corps, notre propre corps qui nous appartient a priori. Est-ce qu'on peut dire, Jean-Michel Beignet, que c'est une forme, ce serait la limite incompressible à l'interchangeabilité? C'est-à-dire au moins ça je sais que ça m'appartient. Ou bien du fait des progrès de la médecine notamment, on a même plus ce repli-là possible.
Oh ben je ne sais pas si on va encore longtemps considérer que le corps est ce qui nous appartient. Après tout, tous les fantasmes qui tournent autour de l'homme augmenté ou de l'homme remodelé ou du cyborg tentent à nous donner de nous-mêmes la représentation d'un assemblage d'organes dans lequel on pourra intervenir pour substituer certains organes à d'autres, pour assurer ce qu'on appelle une vicariance dans l'organisme.
Donc, je suis et en pas même temps, c'est une grande chance quand on voit par exemple les greffes d'organes. On se dit, heureusement qu'il y a les greffes d'organes, heureusement qu'on est un peu interchangeable, parce que sinon, on ne pourrait pas greffer des foies, des cœurs, des reins.
Qui dit interchangeabilité dit genre commun. L'interchangeabilité, c'est toujours l'occasion d'éprouver la co-appartenance à un genre commun, au genre du vivant, de l'humain, etc. Maintenant, les xénogreffes, elles ont eu cours et elles continuent d'exister. Donc on passe continuellement la frontière de l'humain dans les perspectives biomédicales. Et puis, un jour, la biologie de synthèse nous donnera sans doute la possibilité de réaliser des organes qui seront donc le résultat d'autogreffes. Et là, peut-être qu'on assistera à d'autres problèmes, à des problèmes qui seront précisément les problèmes de la désolidarisation. J'aime bien Didier Sicard, qui dirigeait le Comité national d'éthique, disait qu'avec l'autorisation de manipuler les cellules souches embryonnaires qui permettrait la réalisation d'autogreffes chez les individus, nous n'aurons plus besoin les uns des autres. Le don d'organes n'aura plus besoin d'être réclamé puisque chaque individu sera autosuffisant. Au fond, on peut dire que dans le domaine des technologies, d'une façon générale, et là c'est une manière de répondre, de rebondir sur ce que disait Serge Pogam, on a la perspective d'une perfection. On vise à réaliser une perfection dans l'humain, une perfection qui réalisera bien sûr une auto-organisation, une clôture, Hein, et donc, du coup, on ne sera jamais davantage individu que sur la base de ces biotechnologies. Hein, moi, je suis quand même frappé de voir que le discours dominant chez les technoprophètes, comme on les appelle, hein, va toujours dans le même sens. C'est-à-dire, on dit, ben, au fond, on est obligé de reconnaître aujourd'hui que nous ne sommes rien d'autre, les uns et les autres, qu'un neurone du cerveau planétaire. Hein, où nous ne sommes les uns et les autres, nos corps ne sont que des containers à gènes, hein, nous recevons des gènes que nous optimisons et que nous transmettons, et après nous quittons la scène. Hein, donc le corps est de plus en plus considéré comme tout à fait négligeable, hein, complètement négligeable, et donc plus du tout un facteur d'identification.
Alors qu'est-ce qui peut permettre justement ce facteur d'identification si on élimine tout ce qu'on a éliminé ce soir? Je rappelle qu'on pose la question de l'interchangeabilité. Qu'est-ce qui nous reste quand on a enlevé tout ce qu'on peut avoir en commun, Sabine Procoris?
Ah mais je ne crois pas qu'on enlève tout ce qu'on a en commun. Je crois que ce qu'on a en commun, c'est justement que... tout à l'heure, oui, enfin, pour revenir à ce que vous disiez vous à l'instant, oui, un corps qui passe, mais c'est une vieille histoire quand même. Hein. C'est une vieille histoire, les 17e, Cervantes, il parle de ça. Hein. Un corps qui passe, oui, on est des vivants qui passent, pour reprendre le titre d'un film de Lanzmann. Mais qui écrivent Hamlet, qui transmettent des choses, voilà. Et toutes les choses qui sont construites socialement que vous évoquiez, elles sont aussi digérées par des inconscients.
On pourrait donc dire que...
Donc il y a effectivement, en cela, on est liés.
Ce que vous êtes en train de dire, que ce qui va résister, c'est tout ce qui relève du symbolique.
Appelons ça le symbolique, bien que je sois prudente avec ce terme, vu, disons, son destin dans la théorie analytique, mais disons tout ce qui touche à le fait que quelqu'un peut transmettre quelque chose à quelqu'un d'autre. D'une manière pas forcément consciente d'ailleurs, hein, d'une manière invisible. C'est Elias Canetti qui parle dans Masse et puissance, qui parle des masses invisibles et qui sont constituées de tous les gens qui sont morts avant nous, mais aussi de tous ceux qui naîtront après nous. Et voilà, et tout ça, il y a quelque chose qui se transmet par différents fils, par capillarité d'un humain à l'autre.
Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment envie de mourir. Enfin, je ne sais pas si on l'a eu à une époque, mais en tout cas, il y a cette quête d'immortalité qui existe aussi beaucoup à travers la recherche de nouvelles technologies. Notamment, alors c'est Google, voilà, il y a des recherches qui sont menées pour aller peut-être un jour vers cette immortalité. Ça veut dire aussi que chaque individu se vit comment? Comme quelqu'un d'irremplaçable, donc de pas interchangeable justement. C'est une façon peut-être aussi qu'on a de répondre à ça.
J'en sais rien, moi je trouve que c'est très rassurant qu'on soit mortel. Hein.
Je crois que on vit dans un monde où on se croit véritablement tout à fait autonome, singulier. Il y a une course dans l'individualisme, une course à cette recherche de la singularité et qui permet effectivement de construire son identité. Mais en fait, les sciences sociales apprennent que finalement, il n'est de société que de complémentarité et d'interdépendance, et que l'individu finalement dépend, y compris pour construire son identité, dépend de tous les autres avec lesquels il est en relation, notamment pour satisfaire son besoin de protection, mais aussi son besoin de reconnaissance. Donc, pour construire son identité, il a besoin d'être reconnu. Il a besoin d'être protégé, certes, mais il a besoin d'être reconnu. Et donc, dans cette quête de reconnaissance, il y a là un enjeu fondamental qui fonde donc du coup, la solidarité, c'est la prise de conscience que nous ne sommes pas seuls et que nous avons besoin du collectif pour exister en tant qu'individu.
Il a besoin d'être reconnu, cet individu qui veut forger son identité. Pour être reconnu aujourd'hui, ça ne veut pas dire être semblable, c'est être le plus proche possible des autres. Je pense par exemple à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On voit bien qu'à la fois, ça participe d'une recherche de distinction. On va photographier par exemple ce que l'on mange chez soi ou dans un restaurant. On fait des selfies, c'est-à-dire on se prend en photo. Et en même temps, c'est peut-être comme ça qu'on se fond le plus dans la masse, Jean-Michel Beignet. Enfin, il y a une forme de paradoxe.
Oui, je crois qu'il y a un paradoxe, hein, entre cette revendication d'identité et cette conformisation extrême, hein, que l'on voit, rencontre des adolescents qui vous disent ah ben moi j'ai mon style, moi je m'habille pas comme les autres, etc. Puis vous vous rendez compte qu'ils portent la panoplie de tous les adolescents de sa génération.
Pas seulement au niveau des individus, d'ailleurs, quand on voyage un peu, moi j'étais frappé, alors l'an dernier, je vais pas raconter ma vie, mais je suis allé en vacances au Pérou, et j'ai été frappé dans certaines villes de voir à quel point j'étais à l'aise, parce que tous les codes que je connaissais à Paris, ils étaient présents dans les villes péruviennes.
Ben oui. Non, mais c'est la standardisation de notre mode de vie et de nos façons de penser qui prévaut aujourd'hui et qui conditionne évidemment considérablement cette question de l'interchangeabilité. C'est parce qu'on est dans des formats qui sont communs. Et on n'a pas beaucoup parlé de l'irresponsabilité qui résulte de cette interchangeabilité et ce sentiment d'être toujours remplaçable est au fondement même de la perte de la responsabilité.
C'est-à-dire ça dédouane d'une responsabilité.
Mais complètement. Je crois que effectivement, c'est Lévinas qui disait ça très bien. Il disait à partir du moment où je me sens remplaçable, commence l'immoralité. Je ne suis plus à l'origine, à ce moment-là, de chaînes d'action causale.
Sabine Procoris.
Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Lévinas, là, pas du tout. Parce que d'abord, je ne pense pas que qui que ce soit à l'origine de quoi que ce soit. On est un chaînon parmi, dans des liens, quoi.
Et je pense qu'au contraire,
au fait d'être vraiment là où on est, d'occuper la place qu'on occupe, aussi bien qu'on peut le faire là où on est, et dans ce souci toujours de la transmission, et dans cette conscience que ce qu'on transmet, c'est quelque chose qui nous a été transmis et qu'on a transformé sans le vouloir. De même que la singularité, pour moi, ça ne peut jamais être une visée, c'est une donnée. Et c'est précisément quand ça devient une visée qu'on retombe dans le périmètre de l'individu qui là effectivement standardise. Michel Foucault le disait, la norme homogénéise en individualisant. Mais à ce moment-là, ça veut dire que l'individu c'est beaucoup plus étroit que ce que moi j'appelle la singularité, qui est faite de tous nos liens, comme je disais tout à l'heure, passé, présent, avenir.
Serge Pogam, sur cette question de la déresponsabilisation.
Écoutez, moi, effectivement, on parlait de pluralité, de la pluralité des liens. Le sociologue va toujours insister sur la nécessité de la pluralité des liens pour exister socialement. Donc, la responsabilité de l'individu, c'est effectivement de pouvoir sentir en lui le collectif qui le porte. Et c'est ça qui fait que la société existe. C'est pour ça que Durkheim, par exemple, le fondateur de la sociologie française, ne cessait de rappeler que le sociologue doit souligner ce qui fait société, justement, pour rappeler ce qui constitue le tissu social et pour aussi relativiser cette idée que l'individu est totalement autonome. En fait, il est autonome, mais dépendant des autres. Et c'est ce sentiment de dépendance qui permet justement de relativiser cette immense responsabilité qui pèse sur ses épaules.
Bon, Sabine Procoris, Jean-Michel Beignet, Serge Pogam, on est presque au terme de cette émission. Je vais vous faire un aveu. Si on a organisé en fait cette émission ce soir, c'est parce que moi je suis très inquiet. Je pars en vacances ce soir, du grain à moudre, version grille annuelle s'achève, mais va me succéder lundi prochain, Raphaël Bourgois. Bonsoir Raphaël.
Vous avez employé le bon terme, succéder. Hein, je ne vous remplace pas. Hein, mais...
Pour du grain à moudre d'été. Alors, est-ce que je dois être inquiet en me disant, attention, je suis interchangeable, donc je risque de ne pas retrouver ma place à la rentrée? Comment est-ce que je dois réagir? Aidez-moi, tiens, Serge Pogam, qui examinez un petit peu ce qui se passe dans le monde du travail.
Écoutez, vous avez, je ne sais pas si vous avez raison d'être inquiet, je ne le pense pas parce que vous
parce
êtes...
Parce que je suis bien meilleur que Raphaël, c'est ça?
Non, mais parce que vous êtes reconnu et vous êtes reconnu pour ce que vous faites, etc. Et donc, vous pouvez effectivement partir en vacances tranquillement, me semble-t-il. Mais c'est cette question que vous vous posez, c'est effectivement une question que se posent de nombreux salariés. Et il y a de très fortes inégalités. C'est ça aussi, on a peu parlé des inégalités, mais les inégalités sont extrêmement fortes, c'est-à-dire qu'il y a des salariés qui ont le sentiment effectivement d'avoir une très faible valeur, d'être très peu utile et donc d'être très facilement remplaçable.
Je vais partir donc en paix, Raphaël Bourgois. Juste un mot peut-être de la programmation de la semaine prochaine.
Oui, alors d'abord il faut dire que le grain à moudre d'été c'est à partir de 18h15, 5 minutes de plus, et puis la semaine prochaine on commencera certainement d'ailleurs avec la conférence sociale. On se demandera si les syndicats sont des partis politiques comme les autres. Vous voyez, je vous ai emprunté votre sens de la formule et du titre, Hervé Gardel. d'être.
Voilà, du grain à moudre d'été, c'est 5 minutes de plus et c'est 5 jours par semaine au lieu de 4. Et je précise qu'au mois d'août, ce sera Julie Gacon qui sera à votre place.
Je m'inquiète déjà.
Merci beaucoup en tout cas à tous. Merci Raphaël, merci Serge Pogam, Sabine Procoris et Jean-Michel Beignet d'avoir participé à cette discussion. Je voudrais profiter, comme c'est la dernière, pour remercier à nouveau très chaleureusement et très sincèrement toute l'équipe, notre réalisateur Jean-Christophe Francis, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richer, ô combien précieuse. Je voudrais aussi en profiter pour saluer nos deux stagiaires qui nous ont accompagnés cette année. Simon Buisson, c'était au premier trimestre, et Mina Fézy qui était avec nous depuis le mois de janvier. Soyez-en absolument remerciés. Voilà, j'arrête là, parce qu'on va finir par pleurer peut-être.